Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sur 85 radios et en live sur Facebook, à travers le pays, vous pouvez écouter et suivre le forum de la presse de Studio Tamani. Ce soir à 21h30 sur NRJ TV et 23h15 sur Renouveau et Belédougou TV. Nous avons trois invités sur ce plateau pour parler de sécurité, parler de coronavirus en lien avec la fermeture des écoles, la rentrée scolaire qui est repoussée jusqu'au 25 janvier. Et si le temps nous le permet, nous aborderons également la grève, la grande sociale, notamment en lien avec les négociations qui sont en cours entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement malien. Et nos invités sont Alexis Calambri, directeur de publication du journal Mali Tribune, Madame Togola Hawasemega, directrice du site d'information kunafoni.com, et au téléphone Mamoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti. Je suis Mohamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Pour ce forum de la presse, nous allons commencer par la situation sécuritaire dans le pays, notamment à Bounti, où plusieurs versions sont données par rapport à des frappes aériennes. Le gouvernement du Mali, à travers un communiqué publié hier, qui annonce qu'une trentaine de djihadistes ont été tués, alors que des civils au centre du pays témoignent que ce sont des civils qui ont été tués à Bounti. Alors, Mamoudou Bokoum, comment cette information et les différentes réactions sont accueillies dans la région de Mopti à ce jour?
Merci bien, Mamoudou. Écoutez, dès l'annonce de cette frappe involontaire, disons, pour certains et volontaire pour d'autres, des versions diverses. En réalité, avant la publication du communiqué du ministère de la Défense, en tout cas, nous avons eu des civils qui ont témoigné que vraiment c'était une cérémonie de mariage. Bon, ça reste des témoignages, nous ne sommes pas allés sur le terrain pour vérifier, mais ce qui est sûr, il y a eu des témoignages vivants qui l'ont confirmé et viennent subitement de communiquer également du gouvernement qui atteste que c'est 30 djihadistes qui ont été tués. Et avant cela, Barkhane a reconnu que c'était une bavure. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs versions, mais il faut quand même investiguer pour voir la réalité. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que la population, dans sa grande majorité, estime que ce sont des civils qui ont été tués.
Barkhane a annoncé qu'une opération a été menée qui a permis de tuer des djihadistes. Mais est-ce qu'elle a parlé de bavure?
Pour un premier temps, c'était ce qui avait été dit. Mais c'est après que le communiqué, selon les informations que nous avons reçues par-ci et par-là, mais c'est après qu'ils ont sorti ce communiqué officiel pour dire plutôt que ce sont des djihadistes qui ont été tués.
Alors, Alexis Calambri, qu'en est-il de cette situation? Oui. Quelles sont les versions?
Oui, alors, les faits. Il y a eu une frappe. Il y a eu des blessés et des morts, corroborés par MSF qui a dit s'être rendu sur place et avoir apporté assistance à des blessés et même rapatrié des morts. Mais alors, c'est qu'il y a, vous savez, si vous regardez Barkhane, on peut leur reprocher tout, mais ils ont toujours assumé même les bavures, même s'ils cherchent les mots pour les dire. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, il est difficile qu'il y ait un mariage quelque part sur le territoire sans image. Et à ce jour, et même les morts que nous avons vus étaient déjà dans des sacs. Alors, personnellement, je penche plus pour la thèse de Barkhane. Oui, en ce sens que oui, c'est peut-être des djihadistes, c'est sûrement des djihadistes. Eux, ils ont une communication très huilée. Ils savent toujours prendre la population au sentiment. Mais oui, si c'était un mariage, on aurait vu des images. Je n'ai pas vu sur les réseaux des images d'un mariage. Je n'ai pas vu des... Ce qui est difficile aujourd'hui. Donc, je pense plus que c'était plutôt des djihadistes. Surtout que Barkhane, comme je l'ai dit, a toujours assumé. Et le... Et les accords qui nous lient dans ce sens-là disent clairement qu'on ne peut même pas les poursuivre en cas de bavure. Donc, je ne vois pas pour quelles raisons ils vont refuser d'assumer si c'était le cas.
Avez-vous une explication par rapport à la différence de précision dans les deux communiqués, celui de Barkhane et celui des forces armées maliennes, puisque dans celui de Barkhane, il est dit que des dizaines de djihadistes sont tués et la localité est précisée, Bounti. Mais dans celui du Mali, il n'est pas précisé la localité. On parle d'entre Ombori et Douanzan.
L'État malien a cafoué. Et je pense qu'ils n'ont pas de, d'informations précises. Ils ont peut-être cette frustration, comme on le ressent depuis la mise en place de la transition, qu'ils n'ont certainement pas été associés comme ils l'ont toujours demandé et qu'ils ont été mis devant le fait accompli, n'étant pas, disons, au cœur de l'événement. Je pense que c'est plutôt les interpellations du fait que jusque-là, l'État n'a pas parlé, qui les a amenés à pondre un communiqué au pharmacien alambiqué du reste.
Est-ce que vous comprenez ce retard pris par le gouvernement malien pour réagir, publier ce communiqué, Hawa Semega?
Je ne le comprends pas du tout, d'autant plus que dès le jour où il y a eu les frappes, c'était un dimanche, ils ont pris 4 jours pour faire ce communiqué-là. J'estime que le temps est trop long. Ils auraient dû réagir rapidement avant même que l'information ne vienne sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça même qui a alimenté en fait le fait qu'ils se sont précipités peut-être à faire un communiqué, comme Alexis l'a dit tout à l'heure. Probablement qu'ils n'ont pas d'informations précises sur ce qui s'est réellement passé, parce qu'ils disent que dans leur communiqué que c'est une frappe commune entre Barkhane, G5 La Force, G5 Sahel et puis l'armée malienne. Donc il n'y a pas en fait de précision exacte. Et dans le communiqué, on voit, ils disent qu'il y avait une trentaine de personnes sur place et qu'une cinquantaine, une cinquantaine de personnes et une trentaine ont été maîtrisées. Donc je pense qu'il y a, il y a un réel souci à ce niveau-là et c'est important d'élucider ce qui s'est réellement passé. Parce que MSF a donné ses chiffres, MSF a dit qu'il y a eu des attaques, des frappes. Et certains civils disent qu'il y avait un mariage, mais comme Alexis l'a dit tout à l'heure, on est à l'ère du numérique. Tout ce qui se passe, c'est directement balancé sur les réseaux sociaux. Donc s'il y avait un mariage, certainement, même si c'est une ou deux personnes, auraient pris les images et les auraient mis en ligne sur les réseaux.
Êtes-vous aussi sûr que Alexis Kalambi, que ce soit les djihadistes qui aient été tués à Bounti?
Alors, sur ce point-là, j'ai quelques doutes. Il est probable que ce soit des djihadistes, mais dire que c'est l'entièreté de ces personnes qui ont été tués par ces frappes, qui sont tous djihadistes, j'ai quelques réserves à ce niveau-là. Parce que je me dis, il faut le reconnaître aussi dans ces régions-là, dans ces zones, il y a beaucoup de villageois qui sont infiltrés dans les réseaux djihadistes. Ils font les forfaits et après, ils retournent en fait dans leur village d'origine. Donc je pense qu'il y a un réel souci à ce niveau-là. C'est la population qui doit coordonner, qui doit collaborer avec l'armée. Mais le problème aussi de l'armée, c'est que quand tu collabores avec eux, parfois, ils se sentent objets de cibles et d'attaques directes de la part d'autres populations environnantes.
Mamoudou Bokoum, serait-il possible qu'il y ait des civils parmi les personnes qui ont été tuées à Bounti?
Bon, ce que j'ai dit, les différentes thèses que nous avançons ici, c'est des témoignages qu'on a eu sur le terrain. En fait, le Barkhane a fait son communiqué, l'État également. Et beaucoup de gens aussi qu'on a appelés ont témoigné qu'il y avait des civils. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il reste à mener des enquêtes vraiment approfondies et sincères pour vraiment élucider cette situation. Donc, ce qui est sûr, même si c'est des djihadistes, il pourrait y avoir des civils, d'autant plus que les présumés djihadistes sont vraiment infiltrés dans la communauté. C'est des gens qui vivent dans la communauté. Donc, on ne peut pas dire tel ou tel sont des djihadistes. Et puis, la lutte est très difficile. Si quelqu'un n'a pas d'armes, comment on peut le qualifier de djihadiste? Donc, il faut avoir une arme d'abord qu'on te repère, qu'on te voit dans les actions. Maintenant, avec les témoignages reçus, certains estiment que c'est des civils, d'autres c'est des militaires. Il n'y a qu'une enquête indépendante, sincère, qui puisse vraiment donner, vraiment qui puisse éclairer cette situation. Comme ça, là, c'est très difficile, c'est toujours des suppositions, c'est toujours chacun va défendre son point de vue. Ce n'est que ça, sinon aucune personne aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, ne peut te dire concrètement voilà ce qui s'est passé. Chacun défend vraiment sa cage.
Attendre plusieurs jours avant de réagir sur ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est une erreur commise par l'État malien?
Ça, on a toujours reproché à l'État malien de retenir l'information. La rétention des infos, c'est très dangereux. Deuxièmement, notre défaut, c'est qu'il y a un déficit de communication. On parle de grande muette, mais le factuel est là. L'acte a été commis. Il y a une date, il y a une heure, les informations ont remonté. Qu'est-ce qui empêche l'État de donner sa version des faits ou de quand même d'informer les gens sur les factuels, ce qui est fait? Donc vraiment, d'attendre 96 heures, c'est-à-dire 4 jours, pour annoncer qu'ils ont fait ceci ou cela, ou pour annoncer que tel acte a été commis, moi je crois que vraiment c'est une erreur monumentale qui ne devrait pas arriver.
Si ce sont des djihadistes qui ont été tués, Alexis, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours?
Oui, alors, deux choses avant que je voudrais noter avant de répondre à la question, c'est comme on l'a noté dans les communiqués, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'enfants. C'est difficile un mariage sans les femmes, surtout, et sans les enfants. Et deuxièmement, oui, le communiqué de MSF aussi était assez alambiqué et tendait à faire croire en des civils, au moins en un certain temps. Mais oui, il est évident, peut-être Barkhane agit toujours sur la base des informations, prend le temps de filer avant de faire des frappes. Et si vous avez vu, du côté des djihadistes, ça s'est toujours soldé par des représailles. Donc, si jamais... et je pense que ça, c'est même la faiblesse de ceux qui sont en train de lutter contre les mouvements terroristes sur le terrain, parce que tout le temps, dans les communications, ils disent sur la base des informations. Donc, tout de suite, on comprend qu'il y a eu des gens qui les ont dénoncés et c'est évident qu'il y aura des représailles.
Et par rapport à ces différents communiqués que Barkhane communique 48 heures avant l'État malien, est-ce que ça montre encore le manque de coordination entre ces différentes forces?
Oui, il y a un problème de coordination, il y a un problème de confiance. On pensait à un certain moment donné que cette confiance avait été instaurée, que la collaboration avait été mise sur place, mais visiblement ce n'est pas le cas. Mais Barkhane, quand même, a une constance dans sa communication. Elle n'a jamais communiqué pratiquement le même jour sur ses activités. Si vous voyez, c'est peut-être une semaine, trois jours après, qu'ils vont dire « en telle date, nous avons fait telle chose ». Je pense qu'ils ont été surpris cette fois-ci par la réaction qui a tenté de faire croire en des bavures qui les ont amenés à précipiter la communication. Mais oui, l'État malien peine à s'imposer sur le terrain en termes de participation aux actions sur le terrain et peine certainement aussi à forcer ou à avoir la confiance des partenaires qui nous aident sur le terrain. Parce que oui, quand vous discutez avec les forces étrangères, ils vous disent souvent même que en partageant les informations avec l'État malien, ça fuite. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille cette confiance-là.
Que pensez-vous de ce manque avec ce manque de confiance, peut-on parvenir à lutter réellement contre le terrorisme dans le pays?
Non, je pense justement que c'est ça en fait qui crée la difficulté pour lutter efficacement contre le terrorisme, pas seulement au Mali, mais dans le Sahel de façon générale. Parce que quand il n'y a pas de confiance entre les différentes forces en place, il est vraiment difficile de coordonner les luttes. Et c'est pour ça que le communiqué de l'armée malienne me laisse un peu perplexe quand ils disent qu'il s'agit d'une frappe commune entre les différentes forces. Donc c'est extrêmement important de revoir même le fonctionnement du service de renseignement malien. C'est important.
Et c'est dans ce contexte que la situation de Farabougou continue d'inquiéter encore les populations. Mamoudou Boukoum, qu'en est-il sur place?
Bon, il y a Farabougou à côté, nous aussi, il y a notre Somadougou à côté, donc au niveau de la région de Mopti et plutôt au niveau des régions de Ségou et de Mopti, on suppose que les choses sont en ébullition. Farabougou est assiégé, certes, mais à Somadougou, à quelques 35 km de Mopti aussi, ça ne va pas. Là, c'est entre forces armées et chasseurs d'Ozo. Donc, ça veut dire que cette situation, elle est en train d'être amplifié à ces deux niveaux, au niveau de la région de Ségou et au niveau de la région de Mopti. Imaginez depuis le 27 décembre ce qui s'est passé à Bongil entre les militaires et les Douzo. Le 4 janvier, la même chose reprenne jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme. Ça veut dire que quelque part, il y a ce divorce entre, il faut l'appeler comme ça, ce divorce entre les forces de sécurité, de défense et de sécurité et les chasseurs d'Ozo, on le suppose. Mais de toute façon, rien ne va entre eux et c'est la population qui souffre parce qu'il y a eu deux fois, sinon quoi, 72 heures que la route nationale numéro 6 est coupée, à cause de ces différends entre ces deux corps. Ça veut dire quoi? Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Il ne faut pas qu'il sous-traite la sécurité des populations par X ou par Y. Moi, je crois que c'est le moment de sortir les muscles aujourd'hui au niveau et de Farabougou et au niveau de la région de Mopti ici, pour que cette paix dont on assure à tout moment, pour que cette paix puisse revenir. Sinon, comme ça, on dialogue, on négocie, on ne sait pas qui est qui doit assurer la sécurité de qui. Donc, comme ça, tout est mélangé, Mahamoudou. Donc, je crois que l'État doit vraiment être présent de façon significative et sortir les muscles s'il le faut pour assurer cette sécurité au niveau des Farabougou et au niveau de la région de Mopti.
Alexis, par rapport aux informations que vous pouvez obtenir, est-ce que ces habitants se sentent aujourd'hui abandonnés par l'État malien?
Oui, bien sûr. En tout cas, à Farabougou, où Mali Tribune a l'habitude d'envoyer des équipes de reportage, il y a ce sentiment d'abandon. Certes, il y a eu après le forum de Niono qui n'a rien donné. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain et en termes de négociations, parce que l'argument avancé dans un premier temps par l'État était de dire, puisqu'il s'agit d'un différend communautaire, tentons, disons, une approche communautaire de négociation et de réconciliation. Et ça n'a pas marché. Je pense que, quelles que soient les options adoptées, il faut d'abord libérer les zones, y compris, s'il le faut, par la force, de sorte qu'après, on puisse discuter. Mais on ne peut pas laisser des populations au centre du pays, comme ça, devenir otages et avoir l'impression d'être abandonné. Aujourd'hui, en tout cas, à Farabougou, la situation demeure. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que l'État fait des choses? En tout état de cause, le constat est que les populations sont assiégées et de plus en plus n'ont même pas le droit d'aller dans les champs. On a même appris des cas de champs brûlés parce qu'on demande maintenant aux populations de payer pour leur protection, de payer et tous ceux qui refusent sont victimes de représailles. Mais oui, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas à tergiverser. Je pense qu'il faut, il est indispensable qu'il y ait la triptyque, hein, la force, la négociation et le développement. Mais il faut ajouter à cela la communication parce que oui, il faut rassurer les gens que quelque chose se passe et on n'a pas l'impression que quelque chose se passe.
Alors, c'est méga. Alexis a évoqué le forum de Niono. Quelle utilité de ces multiples rencontres qui ont déjà eu lieu dans le pays en faveur de la paix et la réconciliation?
Je pense que l'utilité, l'impact n'est pas du tout visible parce que les populations se réunissent dans des salles, discuter, échanger, mais ne pas aller à la rencontre directe des populations qui sont directement concernées par ces phénomènes-là. Je vois pas franchement l'utilité, l'impact réel sur les populations. D'autant plus qu'il y a quelques jours, nous, des informations qui nous sont revenues de Molodo, juste à côté de Nioro, il y a des villageois qui se plaignaient du fait qu'on les interdit d'aller cultiver dans leur propre champ. Il y a même une personne qui a été assassinée parce qu'il a osé aller, il essayait de cultiver. Et là, il y a un sérieux problème de confiance entre la population et l'État, et les forces de sécurité précisément, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Et ces zones-là, Nyonou, Molodo et tous les environs de Ségou sont en permanente insécurité, alors que c'est la région rizicole. Et s'il n'y a pas de culture, on risque d'aller vers la famine dans quelques temps, pas longtemps d'ailleurs.
Est-ce l'objectif de ces personnes qui empêchent ces populations d'aller cultiver?
Oui, je pense que c'est l'objectif visé, parce qu'ils se disent que si la population a quelque chose à manger, ils seront tranquilles. Mais si la famine commence à venir, ça va les inciter à se révolter et à faire des actes inimaginables.
Mamoudou Boukoum, est-ce que c'est parce que les vrais acteurs ne sont pas impliqués dans ces différentes rencontres-là que les objectifs ne sont pas atteints, comme l'ont souligné Alexis et Awa Semega tout à l'heure?
Exactement, je voulais rebondir sur cet aspect. Au niveau de la région de Mopti, où je crois maîtriser, on a eu des avancées, notamment dans le secteur de Djéné. Donc il y a eu des négociations avec les vrais acteurs, c'est-à-dire ceux qui portent les armes, notamment les chasseurs d'ozo et les présumés djihadistes qui sont dans la brousse. Ils ont échangé, ils ont négocié, ils ont signé un pacte depuis août dernier jusqu'à présent. Moi, je crois que, en tout cas, dans le Guinéry, c'est-à-dire de Guinée jusqu'aux alentours de Fakala, tout le monde est en train de faire son travail. Mais là où les négociations tardent à donner leurs fruits, c'est là où il y a beaucoup d'experts qui vont venir, beaucoup de représentants des communautés, que ce soit des communautés Peul ou Dogon ou en tout cas Bamara, qui vont venir en épargnant les vrais acteurs qui sont sur le terrain, les communautés qui sont vraiment sur le terrain. Donc c'est ça qui fait que les négociations ne portent pas. En tout cas, à Guinée, ça a porté fruit et je suis témoin et les gens peuvent en témoigner, et puis c'est vérifiable également. Mais c'est dans le Sénat où ça pose problème parce que, tout simplement, on ne convoque pas les vrais acteurs pour parler de leurs problèmes. Et il y a des mains, il faut le signaler, je le dis, je le maintiens, il y a des mains invisibles de toutes les communautés qui sont à l'extérieur des centres, qui sont en train vraiment de mettre les bâtons dans le roue, parce que tout le monde, chacun de leur côté, est devenu soit un marchand d'armes, soit un recruteur, ou chacun détient son gain facile de là où il est, en créant des problèmes au centre. En réalité, quand tu vas sur le terrain entre les différentes communautés qui y vivent, quand tu leur poses la question de ce qui se passe, ils ne pourront pas te dire qu'il y a ceci ou cela qui nous oppose. Mais les fils, tels sont tirés de l'extérieur, de Bamako et de l'extérieur du Mali. Ce n'est pas au centre ici. Donc il faut chercher à résoudre ce problème au niveau de ces gens qui sont en train de créer la zizanie dans le centre ici.
Parlons maintenant de coronavirus.
Rapidement, ce que Boukoum dit est vraiment intéressant. Vous savez, souvent quand vous discutez avec les populations, c'est-à-dire on n'est pas capable de vous dire voici le problème entre nous. Ils vont dire bon, le bœuf a mangé notre riz, mais ça se fait de tout temps et ça se règle. Il y a, oui, effectivement, je pense qu'un des enjeux, c'est de pouvoir assécher les sources de financement et de soutien. Il y a une économie de guerre et d'insécurité, et certains en vivent bien. Donc, il faut que l'État aussi parvienne effectivement à assécher ces sources qui financent, qui recrutent, qui amènent l'argent, parce que quel que soit le niveau d'endoctrinement, il faut qu'on vous donne l'argent pour vous nourrir votre famille, il faut qu'on vous paie la moto, il faut qu'on vous paie même l'explosif que vous mettez sur les routes. Donc il faut vraiment que ça soit une piste qu'on explore et qu'on cherche à assécher pour que ça ne déborde pas davantage.
Alors on poursuit avec le coronavirus. Quelle analyse faites-vous, Awa Semega, de l'évolution de cette maladie et des mesures prises par les autorités pour y faire face?
Ok, déjà l'évolution, je pense que c'est dû au fait que avec la première vague, beaucoup de personnes n'y croyaient pas, même au niveau de la sphère intellectuelle, on va dire, entre guillemets. Et c'est ce qui en fait a accentué en fait le nombre de cas positifs de ce coronavirus-là. Et là maintenant, j'estime que les décisions que le gouvernement a prises face à la pandémie, c'est assez insuffisant. Déjà, pourquoi fermer les écoles et laisser les marchés ouverts, les églises, les mosquées ouvertes? Je pense qu'il n'y a aucune logique à ce niveau-là. Déjà que l'éducation est... Ça fait plusieurs mois que les enfants ne vont pas à l'école. Et maintenant, dire fermer les écoles pendant quelques semaines et laisser les autres ouverts, je pense qu'il n'y a pas de logique, quoi. Il faut qu'ils revoient en fait leur stratégie pour contrer ce virus-là.
Quel est votre point de vue sur cette pandémie?
Oui, effectivement, comme disait Awa, je pense qu'il y a eu du temps pour que les gens croient vraiment en son existence, surtout chez nous.
Est-ce qu'ils y croient même en ce moment?
Je pense qu'il y a encore beaucoup de réticences et incertains. Si vous regardez les transports en commun, vous voyez que il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de précautions. Si vous regardez les lieux publics et si vous entendez même souvent les prêches, donc je pense que l'État doit avoir le courage de fermer ne serait-ce que pour 2 semaines les lieux de culte, doit avoir le courage d'interdire les marches et toutes les manifestations comme les mariages et les autres cérémonies au moins pendant 2 semaines pour qu'on voit l'impact. Parce que oui, fermer l'école pendant que tous les dimanches et les jeudis les mairies sont bondées, les lieux de culte sont bondés, les autres jours, on a dit pas plus de 50 personnes par regroupement, mais tout le monde voit que ça va au-delà, il n'y a personne pour contrôler, pour compter ou pour prendre des sanctions. Je pense que l'État doit vraiment avoir le courage de tout arrêter à ces niveaux-là, au moins pendant 2 semaines pour qu'on voit, et ne serait-ce que pour Bamako, pour qu'on puisse vraiment infléchir la courbe.
Boukoum Amopti, est-ce que les mesures barrières sont respectées par les populations?
On peut dire pas du tout, parce qu'ils sont très peu, ces populations qui ne serait-ce que respectent, qui ne serait-ce que portent les masques. Sinon, les mariages n'ont pas cessé, les lieux de culte sont fréquentés, les boîtes de nuit, les marchés, tout est ouvert. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut, en fait, il faut une décision courageuse, comme on le dit, hein. Il faut que ça soit les bâtons, la carotte et les bâtons. On tape, on caresse. Sinon, si on laisse comme ça, à l'allure où nous sommes en train d'aller, je crois que ça risque d'être un véritable problème. Imagine, à Mopti, avec cette deuxième vague qui a commencé à partir du 16 novembre, à la première semaine du mois de janvier, on est à 41 cas et 253 contacts. Imagine, donc, si ça continue comme ça, d'ici la fin de janvier, où est-ce qu'on va aller? Et deuxièmement, les gens ne font pas le test. Les gens ne respectent pas les distanciations. Aucune mesure barrière édictée par l'État n'est respectée. Et on prend des décisions, on les lit dans les médias, et on dit que ceci est interdit, ceci est interdit par rapport à ceci ou cela, et aucune suite. Quand vous prenez des décisions, il faut faire les suivis. C'est la moindre des choses pour voir est-ce que cette décision prise a été appliquée. Et tel n'est pas le cas. Si tel n'est pas le cas, moi je crois que cette maladie-là, c'est une réalité ici et ça va continuer à faire des ravages. On ne l'espère pas. Que Dieu nous en garde.
Et s'il n'y a pas suffisamment de tests, les gens ne font pas de tests, dit Mamoudou Boukoum, est-ce que cela veut dire qu'il pourrait y avoir plus de cas que ce qui est déclaré par les autorités?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas vraiment déclarés. Et il y en a beaucoup même qui font des cas de coronavirus à la maison, qui refusent d'aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé, parce qu'ils estiment que quand ils ont un petit rhume, quand ils vont les garder où ils seront un peu stigmatisés, dire qu'ils ont le coronavirus. Je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Il faut accentuer en fait la communication autour de ce virus.
Est-ce que le télétravail, la rotation dans les différents services publics et privés est aujourd'hui également respectée, Alexis ?
Pas beaucoup, parce que oui, malheureusement, la communication coûte très cher et il n'y a pas de mesure d'accompagnement dans ce sens. On en a vu pour l'électricité, mais dans le domaine de la communication, il n'y a pas. Dans le domaine des appareils, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Donc, le télétravail est assez difficile, mais pour moi, n'est pas forcément la panacée. Parce que pour qu'on y arrive, il faut des mesures d'accompagnement. Nous, on est dans des entreprises de presse. C'est vrai que quand tout est fermé, on est vraiment pénalisé. Et il n'y a rien dans ce sens-là pour, disons, accompagner ces entreprises. Mais en plus de cela, si l'État, peut prendre des mesures dans des domaines qui sont pas trop dommageables, c'est-à-dire, on dit pas de manifestation publique pendant 2 semaines, pas de regroupement pour les cultes pendant 2 semaines, c'est-à-dire, l'impact économique est faible de mon point de vue. Et ça peut atténuer énormément parce que selon ceux qui travaillent même sur ces questions-là, ils observent des pics justement après chaque grande manifestation, après chaque grand regroupement. Donc je pense que si on parvient à dissocier ou du moins à stopper à ce niveau, on pourrait endiguer. Mais on a un sérieux problème de capacité, mais également de formation. Je pense que c'est un problème général, la capacité d'accueil de nos soignants. Accueil pas en termes de volume, mais de gentillesse, de disponibilité. Ça manque, je pense, dans la formation de nos soignants. Le patient est vu très souvent comme quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui vient perturber la tranquillité. Je pense qu'on doit travailler sur cet aspect pour que les gens aient même à la limite du plaisir à aller pour savoir leur situation, pour faire leur bilan, mais quand on est déjà stressé parce qu'on sait qu'on sera mal accueilli, ça compte énormément.
On parle d'information et de sensibilisation. Est-ce que les médias maliens également apportent leur contribution, jouent leur rôle sur cet aspect?
Vous savez, on a vu une erreur avec le sida. On pensait qu'on allait tirer les leçons pour corriger cette fois-ci. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'il y a de gros sous, on va dire comme ça, en jeu, la communication est faite à d'autres niveaux. Ce n'est pas les spécialistes de communication qui communiquent, c'est les médecins, c'est d'autres de l'administration qui ont pris ça et qui communiquent très mal. C'est ce qui a d'ailleurs amené ce dysfonctionnement où, à la limite, on a l'impression que c'est vu en certains milieux comme une maladie honteuse. On fait rien de mal en attrapant la COVID. Mais la communication a été tellement mal faite parce que, justement, faite en dehors des spécialistes, qu'il y a un blocage. On l'avait vu avec le sida, mais les autorités n'ont rien fait pour corriger et on a ce dysfonctionnement encore avec la COVID.
Mamoudou Bokouma Mopti, est-ce que les médias contribuent à sensibiliser, informer les populations sur cette maladie du coronavirus?
Effectivement, les médias sont en train de jouer leur rôle parce que nous, on a dit au niveau local, on a dit à tous les médias vraiment de parler de cette maladie dans les différentes émissions, de rappeler les mesures barrières. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Maintenant, Alexis a souligné un point. Il s'agit de mettre des sous. Il y a beaucoup de professionnels de communication qui vont venir se planter, qui vont monter des projets, qui sont financés par-ci, par-là. Et le dernier recours, ça va être les médias. Donc, à ces articles qui appartiennent, tant que ça ce n'est pas fait, ça va être un problème. Parce que ceux qui se sérisent en agent de communication, en communicateur expérimenté, etc., etc., ils vont prendre le marché et ils viennent, ils sous-traitent avec les médias sur place. Donc, ça veut dire que ce qui va être injecté dans la communication ne le serait plus. Donc, il y a beaucoup beaucoup de partage à ce niveau. On est contre personne, mais ce qui est sûr, il faut donner à César ce qui l'appartient. Si tel n'a pas été le cas, si tel n'est pas le cas, je suis sûr que cette lutte-là, ça va être très, très compliqué, la façon dont les choses sont en train d'aller. Parce que tout le monde s'est érigé en communicateur, tout le monde s'est érigé à je ne sais quoi. Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, vraiment, il faut qu'on remette à César ce qui l'appartient.
Ah ouais, c'est méga. Que faire pour que le rôle des médias soit suffisamment pris en compte à travers l'information et la sensibilisation, notamment pour lutter contre cette pandémie?
Bon, je pense que déjà, au niveau de chaque rédaction, chacun est en train de faire des choses. Pour le cas de Kounafoni, nous, on a déjà initié une émission qui est hebdomadaire, où on parle en fait de tout ce qui tourne autour de ça, les impacts, les effets positifs, négatifs, tout ce qui tourne autour de ça. Et je pense que chaque média doit s'impliquer personnellement, même si c'est difficile. Nous, on a eu la chance parce qu'on a eu un financement pour quelques mois par rapport à ça, parce qu'on a estimé que c'était important d'en parler, de sensibiliser la population. Mais est-ce que c'est tous les médias au Mali qui ont cette chance, cette opportunité-là? Je dis non, parce que c'est assez difficile. Il faut que le gouvernement revoie un peu l'aide à la presse. C'est important.
Et du lundi au vendredi, tous les matins, vous pouvez suivre Actu Covid de Studio Tamani de 8h à 9h30. Nous parlons maintenant de grogne sociale. Alexis Calambri, jusqu'à 15h, aux environs de 15h30 aujourd'hui, rien n'avait filtré concernant les négociations entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. Que faut-il faire aujourd'hui pour trouver une solution, selon vous, à cette grogne sociale?
Vous savez, il n'y a, de mon point de vue, qu'une solution pour la transition, parce que pour moi, elle n'a pas, pour se débarrasser de ce poids-là, elle n'a pas à prendre des engagements pour le pouvoir qui doit venir. Pour moi, elle doit négocier un moratoire, s'entendre sur des conditions de négociation, s'entendre même à la limite. Vous savez, on a une multitude de statuts au niveau de la fonction publique. C'est-à-dire, pratiquement aucun corps de fonctionnaires n'est dans le statut général de la fonction publique. Chacun a négocié un statut spécial et tout. Pour moi, c'est la solution pour la transition, c'est de tout mettre à plat, de négocier comment ramener tout le monde dans le statut général, de mettre en place des systèmes d'avancement, de sanctions et de tout, de sorte que, et même d'évaluation, de sorte que ça soit impersonnel, mais que les gens ne soient pas toujours là à se battre pour leurs conditions. S'ils parviennent à s'entendre sur ça, ils auraient fait œuvre utile pour le pouvoir à venir. Mais ce serait dangereux, à mon avis, qu'ils prennent des engagements pour des gens qui vont venir après eux.
Un moratoire serait-il possible, vu que ces autorités de la transition ont déjà accepté les revendications de notamment les enseignants du signataire du 15 octobre à travers l'article 39?
Ça va être difficile, mais je pense que c'est plutôt Ibeka qui avait accepté signer cet article 39-là.
Mais leur accorder cela,
leur accorder
avec
cela,
le CNSP.
Ce sera assez difficile quand même, Mais comme Alexis l'a dit tout de suite, ils n'ont pas à prendre des décisions parce qu'ils sont là pour un temps précis, bien délimité, qu'on connaît déjà. Donc, ils peuvent essayer de négocier, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions aux problèmes existants et ne pas faire fi des problèmes qui existent. C'est extrêmement important.
Voilà. Est-ce qu'il faudrait chercher des médiateurs qui sont écoutés par les différentes parties pour que ces négociations puissent atteindre leurs objectifs?
Oui, je pense que c'est important de trouver des gens, des acteurs qui peuvent être écoutés réellement par les différentes parties. Les différentes parties, parce que déjà, avec l'UNTM qui avait durci le ton, et on a vu l'impact que ça a eu pendant ces, je pense, 4 ou 5 jours. Et c'était assez compliqué. Et il est important aussi de faire des concessions. Je pense que les grévistes, aussi bien les grévistes que le gouvernement de transition, doivent faire des concessions et voir qu'est-ce qui peut aller au bénéfice de la population du pays de façon générale.
Mamoudou Bokoum, comment cette grogne sociale est ressentie dans la région de Mopti?
En fait, c'est la souffrance des populations seulement, parce que rien ne marche, les services administratifs, ça ne bouge pas, au niveau des finances, ça ne va pas, à l'hôpital, etc. Partout où tu vas, c'est la population seulement qui va en partir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important de réclamer ses droits, c'est très important de négocier vraiment une meilleure condition, de chercher une meilleure condition de vie pour sa corporation. Mais il faut aussi penser à cette pauvre population majoritaire qui est là, qui est en train de souffrir à cause de ses revendications. Deuxièmement, est-ce que et si les autorités de transition s'engageaient à satisfaire cette doléance, est-ce qu'elles pourront prendre ça en charge? Parce que l'incident budgétaire est très grand, de telle sorte qu'ils ne pourront pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir, il faut mettre vraiment la fibre patriotique en avant, et du côté des syndicats, de mettre balle à terre, et du côté des autorités aussi, d'éviter le mépris des syndicats. Donc, je crois que c'est ensemble qu'ils pourront vraiment échanger et trouver les voies et moyens pour résoudre ce problème-là, en tout cas pour l'instant, ne serait-ce que pour la durée de la transition, qui n'est plus 18 mois, parce qu'il y a, il y a 3 mois qui sont déjà partis presque. Donc, c'est important pour les uns et les autres de mettre dans la terre, de trouver un terrain d'attente pour le bonheur de la population. Tout ce qu'ils font là, si c'est bien, c'est la population qui va ressentir, et si c'est mauvais, c'est cette même population qui va ressentir. Et si la population vraiment est actifiée, ça risque d'être un autre problème, et on va sur un autre, on va multiplier des champs de bataille encore, et qu'il ne faut même pas, qu'il n'est même pas la peine.
Il nous reste 4 minutes, un dernier tour de table sur un sujet d'actualité, des personnes qui sont arrêtées pour atteinte à la sûreté de l'État, et les avocats de Boubou Cissé qui ont annoncé ce vendredi qu'ils doutent des capacités de la justice malienne à pouvoir juger le cas de Boubou Cissé qui dit s'être caché à l'intérieur du pays parce qu'il a peur pour sa vie. Alors, quelle analyse faites-vous de ces différentes arrestations, Alexis Calambri?
Ça met mal à l'aise parce que si vous avez suivi le procureur, on est gêné de répéter ce qui ressort de l'arrêt. C'est très gênant, c'est superficiel de mon point de vue pour que ça soit des choses qu'on puisse même répéter. Parce que franchement, on est à un niveau où on a besoin de l'énergie de tout le monde concentrée sur nos vrais problèmes. Et je ne vois pas comment des civils vont menacer l'État dans un système démocratique. Comment on peut, par des actes maraboutiques étant cartésiens, menacer la stabilité d'un État? Pour moi, c'est gênant de parler de ces questions. Ça ne fait pas grandir une nation. On est une nation, on est un pays qui a énormément de problèmes, qui doit chercher à se sortir et qui doit mobiliser toutes les énergies autour de ces questions-là. À la limite, s'il y avait des choses, surtout que les accusations ne sont pas précises, à la limite qu'on sorte des accusations précises, qu'on juge les personnes, mais pas de ces façons-là.
Est-ce que ça va faire peur aux gens désormais de s'exprimer, agir librement par rapport à ce qui concerne la gestion de l'État?
Bon, je pense que c'est en fait ça, de mon point de vue, l'objectif du gouvernement de transition, avec les actes qu'ils font. Ils pensent que ça va faire peur aux gens. Moi, je dis non. Bien au contraire, vous allez radicaliser en fait les gens contre vous, les populations contre vous. Parce que ce qui est dit, la première réaction que j'ai eue quand j'ai lu un peu l'arrêté du procureur, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut évoquer ces points-là pour dire que telle personne a marabouté, a amené des trucs à la présidence? C'est des faits fallacieux. Et je pense que le gouvernement doit sortir de ces considérations-là. Comment est-ce que des civils toutes ces personnes qui sont accusées là, des civils, peuvent mener un complot contre des militaires qui sont là. Peut-être qu'ils ont peur parce qu'eux, ils sont venus par... on sait comment ils sont venus, par coup d'État. Donc peut-être qu'ils ont peur que d'autres personnes aussi fassent la même chose. Mais j'estime que ça ne grandit pas du tout le pays, le Mali. On doit sortir de ça et qu'ils laissent... Ils sont là pour un objectif précis, pour un temps précis. Donc il faut qu'ils voient un peu les problèmes réels qui existent dans le pays, qu'ils essaient de les gérer le temps que le gouvernement élu, le président élu et son gouvernement fassent le travail qu'il faut.
Mamoudou Bokoum, quel est votre point de vue sur ces différentes arrestations?
Pour terminer, moi je dirais qu'il ne pourrait pas y avoir un coup d'État uniquement avec les civils sans les militaires. Est-ce qu'il y a des militaires interpellés? Est-ce qu'il y a des militaires qui sont soupçonnés? Qui nous fassent sortir la liste. En tout cas, c'est trop léger l'arrêté du procureur des accusations qui sont là-dedans. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux.
Merci Mamoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti, Madame Togola Hawa Semega, directrice du site d'information kunafoni.com, et Alexis Calambri, directeur de publication du journal Mali Tribune. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaoua et Gagné Kanté, Nouhoum Djiré également, et Philippe Dambélé. Moi, je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.